Vous écoutez France Culture.
Du grain à moudre, Louise Touré, Brice Couturier, l'homme est-il propriétaire de la nature ? Bonsoir.
Bonsoir et merci Florence Turme, bonsoir à tous. Jean-Guilain Meige à la technique, Luc-Jean Reynaud à la réalisation, c'est du grain à moudre.
C'était fatal, un jour ou l'autre, les philosophies environnementalistes allaient rentrer en collision avec l'humanisme. En effet, si l'homme cesse d'être la mesure de toute chose, Protagoras, pour rétrograder au statut d'espèce animale parmi d'autres, comment lui conserver sa primauté ? S'il dégringole même au rang d'espèce particulièrement nuisible pour son comportement irresponsable envers la planète, pourquoi donc le tenir pour supérieur ? Si toute sa science et ses techniques cessent d'être mises au crédit de ses capacités rationnelles et figurent elles aussi à l'acte d'accusation au titre du pillage des ressources naturelles et de la détérioration du climat, où donc est sa fameuse dignité ? Alors, l'éthique environnementale est une branche de la philosophie développée surtout en Amérique du Nord depuis la fin des années 70 et dont nous percevons à présent seulement avec retard les échos. Cette philosophie, elle nous invite à repenser à nouveau frais nos catégories morales en cessant de nous focaliser uniquement sur nos rapports avec nos seuls semblables. Reconnaître une valeur intrinsèque aux créatures du monde naturel, c'est de facto réclamer pour les animaux, mais aussi pourquoi pas pour les végétaux, une dignité propre et des droits. Et du coup, la morale ne peut plus se limiter aux relations des hommes entre eux en tant que seuls, ils seraient doués de raison. Certains animaux ne le sont-ils pas ? Il est tentant de déceler dans ses pensées une haine de la modernité, comme le font les défenseurs de l'humanisme traditionnel, dans la mesure où elles tendent à voir dans l'action de l'homme sur la nature non plus le progrès, à la manière des libéraux et des marxistes d'autrefois, mais au contraire une sorte de viol. Doit-on aller jusqu'à les dénoncer comme un paganisme rétrograde qui nous ferait revenir jusqu'aux époques où nos ancêtres adoraient l'esprit des sources et ménageaient les forêts dont les chênes étaient censés abriter les âmes des héros.
Trois invités pour débattre autour donc, de ces questions ce soir. Émilie Hage, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, auteur de « Ce à quoi nous tenons, proposition pour une écologie pragmatique » publiée à La Découverte. Stéphane Ferré, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes également philosophe, consultant d'entreprise également et auteur de « Deepwater Horizon, éthique de la nature et philosophie de la crise écologique » publiée au Seuil. Et enfin, Samuele Furfari, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes fonctionnaire européen à la Commission de Bruxelles. Vous enseignez la géopolitique de l'énergie à l'Université libre de Bruxelles. Et vous avez publié « Dieu, l'homme et la nature » chez Bourin en 2010.
Alors d'abord, je disais, il y a un point d'histoire, je disais que les philosophies environnementalistes étaient un écho qui nous arrivait avec un peu de retard sur les travaux menés par des philosophes anglo-saxons de la fin des années 70, mais simplement en repensant que quelqu'un comme Bertrand de Jouvenel en 65, j'ai retrouvé un texte de Jouvenel qui s'appelle « Pour une écologie et pour une conscience écologique, pardon, dans lequel il écrivait la chose suivante. « Nous, les hommes, sommes collectivement les grands parvenus de la biosphère, les conquérants, les colonisateurs, les maîtres. Nous nous considérons comme la race des seigneurs et la nature comme notre esclave. » Et Jouvenel faisait remarquer que dans notre système économique, notre comptabilité économique, on ne comptabilisait que le travail nécessaire à l'extraction des ressources et jamais la déperdition de ces ressources elles-mêmes. Et il faisait remarquer lui aussi également que l'homme était sans doute la seule créature de la Terre à changer sans cesse, à améliorer, à perfectionner sans cesse ses méthodes d'extraction des ressources naturelles, alors que la fourmilière ne saurait être améliorée parce qu'elle avait atteint son degré maximum d'efficacité. Donc il concluait, nous devons cesser d'être le pillard habile et irresponsable des ressources naturelles pour devenir gardien de notre demeure terrestre. Est-ce que ça ne veut pas dire finalement que les Français avaient peut-être pas de l'avance, mais enfin n'étaient pas si en retard que ça, Stéphane Ferré, sur les Américains que vous aimez tant?
Je pense que la philosophie française est très en retard par rapport à la philosophie analytique. On peut trouver dans la tradition française, par exemple chez Montaigne, bien entendu, ou encore chez Rousseau, quelques traces d'une pensée pré-écologiste. Au demeurant, il est bien clair que l'éthique environnementale est bien une pensée nord-américaine, foncièrement analytique.
Et donc, à votre avis, ce texte que je viens de citer de Bertrand Jouvenel, il ne s'inscrit pas dans le courant que vous nous essayez de nous faire découvrir ?
Je suis désolé d'avouer mon ignorance, mais je ne connais ni cet auteur ni ce texte. Je peux vous parler, par contre, des philosophes américains contemporains.
C'est ce qu'on
si
va faire
souhaitez.
Ce soir.
Les philosophes américains, les philosophes du monde anglo-saxon, y a-t-il une éthique protestante de la nature, comme il y a une éthique protestante du capitalisme, ou du moins anglo-saxonne, et une sensibilité différente à ces problèmes-là ?
Je pense qu'il y a en tout cas une éthique issue d'un certain protestantisme, puisque l'auteur Lynn White Jr. a écrit un texte remarquable sur les racines historiques de la crise écologique, qu'il était protestant, et qu'il a critiqué de manière extrêmement abrupte, finalement, ce qu'on pourrait appeler les racines du mal, c'est-à-dire l'idée que l'homme serait le maître de la nature. Une thèse bien fameuse, puisqu'elle a été conceptualisée, comme vous le savez, par Descartes dans le discours de la méthode.
Alors justement, dénoncer l'anthropocentrisme qui serait une des nombreuses stars de la culture occidentale, comme le fait cet auteur que vous venez de citer, Lynn White Jr., comme la cause principale de la dégradation de l'environnement, est-ce que ce n'est pas tourner le dos, et c'est là-dessus qu'il me semble qu'il y a vraiment débat, à tout l'humanisme occidental? J'ai cité la fameuse phrase de Protagoras, l'homme mesure de toutes choses, mais vous venez de citer Descartes, rendre, c'est le fameux mot d'ordre du discours de la méthode, que l'homme, par sa technique, puisse se rendre comme maître et possesseur de la nature. Et puis on peut aller jusqu'à Hegel et Marx avec le fait que par le travail qui est considéré comme une lutte avec la nature, l'homme fait son histoire. Est-ce que vous n'êtes pas en train, à la lumière de ces philosophies anglo-saxonnes de l'environnement, de tourner le dos à toute la tradition humaniste occidentale depuis, encore une fois, les Grecs et Descartes jusqu'à Marx ?
Deux points rapides. Premièrement, je me suis intéressé à la philosophie analytique et environnementale, à l'éthique environnementale, non pas directement via les auteurs analytiques contemporains, mais via les grands maîtres à penser que sont d'une part Spinoza et d'autre part Darwin. Ce sont eux, il faut bien le dire, si on respecte un tant soit peu l'histoire, qui sont à la racine de la philosophie écologique. Ça, c'est le premier point. Le second, ça a très mauvaise presse de parler d'anti-humanisme, et c'est bien de faire son premier communiant en disant « je suis humaniste » et comme ça vous allez bien m'aimer. Tout ça est très sympathique et on se retrouve au Club Méditerranée. Si en sortant de cette émission je rencontre un homme en sang dans la rue, je pense que je lui prêterai secours. Et en ce sens-là, bien entendu, je suis un humaniste. Mais je ne suis pas un humaniste au sens théorique du terme, car je ne pense pas du tout que l'homme soit le chef-d'œuvre de la création. Il n'y a pas de rupture ontologique fondamentale entre l'homme et les autres êtres de nature. Et en ce sens-là, nous pouvons défendre de manière extrêmement raisonnable et mesurée, ne serait-ce qu'au nom de Darwin et de l'évolutionnisme, une continuité de fait entre l'homme et les autres êtres de nature.
Alors peut-être pour rentrer dans le débat avec nos autres invités, on pourrait vous demander de la façon dont vous définissez de l'écologie, enfin la pensée écologique, entre justement ceux qui mettent l'homme au centre de leur pensée écologique et puis ceux qui le considèrent autrement. Et vous avez une terminologie spéciale pour expliquer ça, H et non H.
Absolument. Je considère qu'il y a deux visions du monde. Une vision H, humaniste, ou on pourrait dire plus exactement humanocentriste, pardon du néologisme, et une pensée non-H, qui est donc non-humanocentriste. D'un côté, nous avons l'écrasante tradition de la philosophie occidentale, Aristote, Saint Thomas, Descartes, Kant, etc. Et de l'autre, les deux auteurs déjà cités préalablement, Spinoza d'une part et Darwin de l'autre. Pour ces deux auteurs, l'homme est un fragment du monde. On retrouve ces deux tendances dans la philosophie écologiste, autrement dit l'écologisme, avec d'une part une écologie H et d'autre part une écologie non H. L'écologie H est un environnementalisme. La nature doit être préservée, non pas pour elle-même, mais pour l'homme.
Parce qu'elle est une ressource pour nous.
Exactement. Une ressource, hein, c'est un libre, un grand magasin à ciel ouvert et on peut y picorer comme bon nous semble. Ça, c'est la vision traditionnelle. À l'opposé, il y a la philosophie ou l'écologie non-H qui se traduit non pas derrière une pensée unique, mais une galaxie de pensées. Je peux en citer trois très rapidement. L'éthique animale qui met en avant la primauté de l'animal comme être souffrant, comme être sensible. Cette pensée est incarnée notamment par l'Australien Peter Singer et par l'Américain Tom Regan. Deuxième courant de pensée, le biocentrisme. Il s'agit là d'élargir les êtres doués de considérabilité morale à travers les plantes, les arbres. On pense à des auteurs comme Good Pasteur, comme Paul Taylor par exemple. Dans ces deux éthiques, le primat est accordé à l'individu. Et il y a une troisième éthique non-H, c'est l'éthique écosphérique qui, elle, accorde un primat à des entités comme des écosystèmes. Ce qui prime, ce ne sont pas les spécimens, mais la totalité. Autrement dit, ce qui compte, c'est le système et l'équilibre dans son ensemble, la nature elle-même.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a étudié, lu vos livres en parallèle les uns des autres. Alors, sans mauvais jeu de mots, il se trouve que Émilie H, bon, voilà, votre prénom, votre nom de famille se prononce comme la lettre, mais ça n'a pas de rapport avec les théories que développait Stéphane Ferré. Cela étant, on a parlé de deux façons de considérer l'écologie. Vous semble-t-elle l'une vous semble-t-elle plus pragmatique que l'autre? On pourrait penser que, quoi qu'on en pense éthiquement, il est plus pragmatique de choisir la première théorie, c'est-à-dire celle où l'homme est au centre de la pensée environnementale, parce qu'il est plus facile de convaincre les gens d'avoir un comportement politique, un comportement pratique pour l'environnement, si on leur explique que c'est dans leur intérêt, même si c'est un petit peu terre à terre.
Effectivement. Pour autant, quand j'utilise dans mon travail cette notion et cette référence à la philosophie pragmatique, j'entends par là notamment, une des définitions possibles serait de l'attention très forte portée aux conséquences des décisions ou des actions que l'on peut entreprendre. Et par là, il n'est pas nécessairement évident, il faudrait voir au cas par cas et réfléchir de manière méticuleuse, que la première écologie dont vous parlez serait celle qui prendrait le plus en compte les différentes conséquences de nos actions. Et en ce sens-là, même si je suis partie sur... Je me réfère à une autre philosophie, et une philosophie française pour le coup, de l'écologie, qui est celle de Bruno Latour dans mon texte, il me semble qu'elle serait plus proche en effet de cette écologie non-H, telle que l'a définie Stéphane Ferré.
Mais il est intéressant d'observer que dès qu'on aborde le champ de l'écologie politique, et je parle d'écologie politique au sens large, c'est-à-dire non seulement le parti qui prend le nom écologiste ou vert, enfin ça dépend des pays, mais quand cela est considéré par l'ensemble des partis politiques, ils adoptent tout de suite la position, évidemment, H, à droite comme à gauche.
C'est ce qu'on observe. Peut-être, mais c'est pas solide.
Non, mais qu'est-ce que ça vous inspire, peut-être, ce glissement qui
se fait? C'est pas évident, d'une part. Il faudrait voir dans chacune des propositions qui sont faites. Par ailleurs, comme vous le dites, l'écologie ne se réduit pas, effectivement, au discours des différents partis, ou du parti écologique, ou des partis verts, tels qu'ils le présentent. Mais on peut tout à fait penser également à la façon dont les différents militants, les différentes personnes intéressées et concernées par ces questions qui ne sont pas nécessairement dans des partis engagent leur réflexion et en ce qui se suit leur action sur ces questions-là. Et ce n'est pas du tout sûr que ce soit de la meilleure façon. En fait, ce n'est pas sûr que ce soit de cette façon-là qu'une écologie politique, effectivement, pourrait prendre véritablement une grande place.
C'est peut-être une facilité
peut-être
de penser.
Alors Samuel et Fourfard, et vous êtes autour de cette table l'élément critique et dissonant, puisque votre livre « Dieu, l'homme et la nature » est une critique assez vigoureuse de cette philosophie environnementaliste au nom de l'humanisme que vous défendez. Je trouve un peu paradoxal, c'est une petite pique, permettez-la-moi, je trouve un peu paradoxal que de voir dorénavant les chrétiens adopter cette position de repli partagée par les libres penseurs favorables à la modernité démocratique, comme Luc Ferry, qui avait aussi réglé un compte assez virulent avec les environnementalistes dans un livre il y a une vingtaine d'années. Il faut se souvenir quand même, Samuel et Fourfari, que des temps pas si lointains où l'humanisme désignait précisément un courant de pensée qui célébrait contre le christianisme le progrès en tant que développement historique accompli par l'homme hors de tout horizon transcendant, l'œuvre purement humaine par opposition à la providence divine, l'homme qui accomplit ce qu'il a de plus spécifique par le recours à ses seules forces, sa raison, sa volonté, sa culture, sans recours à la grâce. Après tout, le christianisme n'a noué ses liens avec avec l'humanisme que de manière assez tardive avec Brémond et Maritain. Est-ce que c'est pas une position de repli un peu fragile pour les chrétiens que de défendre l'humanisme qui longtemps, encore une fois, l'a combattu?
Je crois que c'est ne pas suffisamment bien comprendre les fondements du judéo-christianisme. Il faut parler de judéo-christianisme, me semble-t-il. Je me place évidemment dans une optique où Dieu crée le monde, bien entendu, puisque je...
Et l'homme a son image.
Et l'homme a son image, c'est fondamental. Dieu étant créateur, l'image, l'homme à l'image de Dieu, c'est un homme créateur. Et en ce sens, il ne peut être que participant de cette création. Il s'inscrit dans une démarche de poursuite de la création. Et donc, tout ce qu'il doit faire est achever ou parachever cette création. Et donc, ça s'inscrit tout à fait dans la logique de l'humanisme. Il n'y a pas de rupture, en mon sens. C'est une continuité de travail pour permettre à l'homme de croître. Lorsque Dieu demande à l'homme de croître et de se multiplier, s'il le dit en nombre, il le dit forcément dans le sens du travail. Et donc dans le sens de former quelque chose, puisqu'il est lui-même créateur. Et c'est là toute cette dynamique. Un homme est là pour créer de la valeur ajoutée à l'humanité.
Donc, toucher à la nature. Et il y a ce fameux passage de la Genèse qui est fort critiqué par vos adversaires environnementalistes, où la Genèse dit de l'homme, tu terroriseras les animaux. Tu seras leur maître et tu les terroriseras. Qu'est-ce que vous...
Ah, mais c'est vraiment jouer sur un seul mot. Ce n'est pas du tout l'esprit du judéo-christianisme. C'est toujours un danger lorsqu'on parle de la Bible, de tirer un verset et d'en faire toute une théorie. Il faut étudier l'ensemble
la
de
Genèse,
la Bible.
C'est la Genèse, c'est pas rien.
Oui, c'est un texte fondamental, mais dans la Genèse, il y a également plein d'autres textes qui montrent que l'homme doit respecter la nature.
S'il la transforme, comme vous venez de le dire, parce qu'il doit parachever l'œuvre du Créateur, c'est donc qu'il y atteinte.
Il apporte de la valeur ajoutée à la création. Il utilise de la matière brute pour apporter de la création une valeur ajoutée. Et forcément, la nature est le support pour que cette valeur ajoutée se concrétise. Et les animaux, c'est clair dans l'ensemble de la Bible, sont... respecter la nature est respectée. Même chez les
Comment
juifs,
peut-on
le
la transformer
sabbat,
sans la respecter ?
Même les animaux doivent se reposer le sabbat.
Comment peut-on transformer la nature en la respectant ?
Parce que la nature est un support qui est là pour l'utilisation de l'homme, dans ce schéma, bien entendu.
Anthropocentrique.
Et il ne la détruit pas, parce que contrairement... Ça, c'est aussi l'autre grande divergence que j'ai par rapport à mes deux collègues autour de la table. C'est que la litanie provient du fait qu'on n'arrête pas de dire qu'on détruit la nature. Je m'inscris en faux dans ce domaine. On ne détruit pas la nature. L'homme utilise la nature, mais je pense qu'il ne la détruit pas. C'est une litanie qui est devenue maintenant un fait accompli pour tout le monde, hein, tout le monde le répète, mais lorsqu'on analyse les faits, je ne crois pas qu'on puisse dire que l'homme soit ce prédateur tel qu'on le décrit partout.
Mais toutes les utilisations de la nature ne se valent pas.
Oui, bien sûr, c'est pour ça que n'oublions pas que l'homme a été chargé par Dieu d'être le lieutenant de la création. Et c'est-à-dire qu'il est là pour l'utiliser, pour pouvoir... vivre et se développer. Et donc, forcément, il a un intérêt, il a une obligation à la maîtriser et non pas à la détruire. Sinon, il ne pourra pas continuer son travail.
France Culture, il est 18h39. Nous parlons de l'homme dans la nature et de la façon dont il peut la considérer et de toute la philosophie et la nouvelle philosophie de ces questions. Et nous en parlons avec trois invités. Samuel Efourfari, que vous venez d'entendre, qui est fonctionnaire européen à la Commission de Bruxelles.
Mais s'exprime en nom propre, sans engager la
Commission. Oui, bon, je redonne son titre. Et vous enseignez aussi la géopolitique de l'énergie. Nous avons aussi autour de cette table Émilie Hache, qui est philosophe, et Stéphane Ferret, philosophe également. Stéphane Ferret, qu'on aimerait entendre justement sur ce que vient de dire Samuele Furfari et sur cette vision chrétienne de l'environnement.
Mais avec grand plaisir, je pense que c'est un moment très très important de notre réflexion. C'est toujours important de revenir au texte et je voudrais citer le fameux verset de la Bible tant controversé. Voici la parole. « Vous serez un objet de crainte et d'effroi pour toutes les bêtes sauvages et pour tous les oiseaux du ciel, pour tout ce qui rampe sur le sol et pour tous les poissons de la mer. Entre vos mains, ils seront livrés. » Voici le texte littéral de la Genèse. Alors, cette thèse est ce qu'on appelle généralement la thèse despotique. L'homme est le maître de la création et il utilise les ressources naturelles à sa guise. Donc ça, c'est la lecture classique que l'on peut faire de la Genèse. Maintenant, je suis entièrement d'accord avec mon collègue qui est sur ma droite, à savoir qu'une autre lecture de la Genèse est possible. C'est ce qu'on appelle classiquement la thèse du métayer, du contremaître ou de l'intendance. Personnellement, bien entendu, j'aurais tendance à souscrire à cette lecture, non pas via la Bible, mais via mes propres conceptions. Si je suis propriétaire d'un poste de télévision, je peux sortir un marteau de mon établi et fracasser mon poste. Ça ne causera de tort à personne. Je peux être propriétaire d'un chien. Je ne peux pas pour autant en jouir à ma guise. Et il est exclu que je puisse lui fracasser le crâne à coups de marteau. Certes, je peux le faire. Rien ne m'en empêche, si ce n'est précisément le droit. Ma télévision n'a pas de droit, mais je vous assure que mon chien a un droit, et ce droit est fondamental. Il s'agit de lui permettre de préserver son être et de déployer son être en fonction de sa nature. En ce sens-là, il n'y a pas de rupture ontologique entre l'homme et mon chien.
Mais Stéphane Ferret, dans votre système, il y a une hiérarchie des êtres de nature, et finalement, vous placez tout de même l'homme au sommet de cette hiérarchie. Qu'est-ce que ça change par rapport à l'humanisme traditionnel qui fait aussi de l'homme le maître et le possesseur de la nature ?
J'apprécie beaucoup votre remarque parce que j'ai essayé de faire un livre, si j'ose dire, raisonnable et tempéré. Ce n'est pas parce que je proclame une sorte d'anti-humanisme, je précise, théorique et en aucun cas pratique, que je suis prêt à verser dans ce qu'on appelle l'écologisme radical, classiquement nommé « the deep ecology ».
Qui prescrit de la suppression de l'humanité parce que c'est une gêne pour la nature. Je simplifie.
Disons que pour dire les choses de manière un tout petit peu plus argumentée, j'aurais tendance à dire que the deep ecology défend un principe fondamental qui est le principe de biosphérisme égalitaire ou d'égalitarisme biosphérique. Autrement dit, tous les êtres de nature sont mis sur le même plan. Je pense que c'est une erreur logique fondamentale. Si tous les êtres ont la même valeur, alors il n'y a plus de valeur. Qui dit valeur dit hiérarchisation. Autrement dit, on peut à la fois défendre une écologie non anthropocentrée et en même temps prôner, ce que je fais dans mon texte, une hiérarchie des êtres de nature.
Que penser du succès, aujourd'hui succès relatif, mais tout de même, de ces théories de la deep ecology ? Et je vais même lier ce succès au grand succès d'un film, c'est le film Avatar. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on y retrouve tout à fait ces théories, la théorie d'une Terre, enfin qui n'est pas la Terre, d'une planète qui serait une entité entièrement, où tous les êtres entiers, où tous les êtres sont reliés dans un grand magma vivant, et vrai plaidoyer pour l'écologie.
Oui, je pense que c'est une bande dessinée, que je pense que c'est une vision de type Walt Disney du monde. La nature est belle et admirable, mais la nature est également cruelle. Il suffit de relire les textes de Darwin, par exemple son grand voyage autour du monde, pour découvrir à quel point le sang est présent pratiquement à chacune de ses pages.
Alors, on parlait de l'anthropocentrisme et de sa critique par les éthiques environnementalistes. Émilie H., on disait à quel point il y a un danger à attaquer l'humanisme, parce que la question de l'humanisme, finalement, elle a ressurgi, il ne faut pas l'oublier historiquement dans notre civilisation, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand on a vu comment les nazis, animés par un anti-humanisme théorique tout à fait radical, au titre duquel ils avaient entendu pratiquer le darwinisme social le plus rigoureux, qui comportait l'eugénisme et la sélection des espèces humaines selon une hiérarchie qu'ils avaient dans la tête, et on connaît le résultat. Du coup, tout de suite après 1945, il y a eu une espèce de consensus des philosophes autour de la défense de l'humanisme. Ça donne la fameuse interpellation lancée par Jean Beaufret à Heidegger. Qu'en est-il de l'humanisme ? Comment pouvez-vous, vous, Heidegger, c'était sous-entendu évidemment, avoir frayé avec les nazis, et êtes-vous humaniste ? Et vous vous souvenez de la lettre sur l'humanisme de Heidegger, qui est extrêmement ambiguë, parce que quand même, il déclare quand même une forme d'anti-humanisme. Il continue à assumer une position relativement anti-humaniste. Mais il dit cette phrase énigmatique qui est quand même très belle. L'homme n'est pas le maître de l'étang, l'homme est le berger de l'être. Commentaire.
Oui, alors, pour revenir un tout petit peu en arrière, il faut être très très clair. Pour moi, l'écologie, ce n'est pas du tout un anti-humanisme. Je ne vois pas du tout en quoi...
Ça, c'est la différence avec votre voisin.
Oui, non, parce que
Stéphane Ferry, qui est non-H. Voilà, ah, il est non-H, comme
oui,
il dit.
Oui, mais il fait la
vous êtes H, comme ouais, votre nom l'indique. Voilà.
Développez bien ce point.
Je ne crois pas du tout que ça s'oppose, parce que, comme le citait effectivement tout à l'heure Stéphane Ferry, par exemple Montaigne, on sait qu'il y a plusieurs formes d'humanisme. On n'est pas nécessairement obligé d'aller dans la direction, par exemple, de celui qui a été... Enfin, qu'on attribue, le pauvre, c'est toujours celui sur lequel on tape aussi. Voilà, Descartes. Mais il y a évidemment un humanisme...
Il a dit que les animaux devaient être considérés comme des
mais on lui a fait dire aussi beaucoup de choses, ouais. Et bon, on pourrait relire aussi ces textes certainement de manière plus précise, mais en attendant, il y a aussi une forme d'humanisme qui, pour moi, peut tout à fait être compatible avec l'écologie. Et pour moi, l'écologie est plutôt la nouvelle forme d'humanisme, au sens où j'aurais tendance à définir l'écologie, enfin la réflexion écologique, non pas comme quelque chose qui porterait sur cette chose nature, enfin la nature qui pour moi est une sorte d'entité métaphysique pas très claire, mais plutôt sur l'ensemble des relations entre différents types d'êtres. À partir de là, pourquoi je serais moins humaniste en m'intéressant et en essayant de me comporter de manière correcte et morale et en intégrant de manière politique les différents êtres non humains, je ne vois pas en quoi ça serait moins humaniste qu'en les excluant.
Alors, Samuel Furfari, justement, vous, votre critique porte exactement sur ce point-là, à savoir que pour vous, l'éthique environnementaliste fait ressurgir une forme de paganisme. Hein,
oui.
C'est là, on sacralise à nouveau les sources et les forêts.
C'est clair avec le texte de Boutros Ghali à la fin de la conférence de Rio. Lors de la conférence de Rio, quand tout était terminé, il a lu un texte qui le dit clairement, que... il faut aller maintenant au-delà du christianisme et retourner à la vénération des forêts, des eaux. Bon, c'est un texte clair, sans ambiguïté. Donc, l'humanisme
mais pour vous,
et la religion a fait son temps.
Pour vous, l'écologisme avec le culte de Gaïa, c'est un néopaganisme.
C'est un néopaganisme, mais c'est toujours la même chose. Il faut être équilibré. Il est évident, et je veux rebondir sur le mot que vous avez utilisé tout à l'heure, le mot de berger. Le roi en Israël était le berger de son peuple, et il avait le droit de diriger le peuple, mais c'était réglementé. Il devait rendre compte. Et l'homme, aujourd'hui, doit rendre compte de la gestion de la nature, c'est évident. Donc, on est là dans un équilibre délicat, où la nature sert au développement de l'homme, mais l'homme doit protéger la nature, entendons-nous bien, pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté. Mais lorsqu'on vient dire qu'il faut maintenant aller au-delà du christianisme et vénérer les forêts amazoniennes et le Rhin, ben alors là, on tombe en plein dans le paganisme.
Bon, excusez-moi, mais ce sont des textes fondateurs. On en est loin. Enfin, on se paye deux mots avec ce genre de discours, parce qu'il est bien évident que pour quelques phrases prononcées comme ça, même au cours de sommets internationaux, c'est pas exactement le cours que prennent les choses.
Je crois que c'est exactement le cours qu'on est en train de prendre, vous puisque maintenant la nature redevient de plus en plus importante que l'homme.
Émilie oui. H.
Alors, je voudrais. Alors, deux choses. Tout d'abord. Concernant effectivement le fait qu'on serait censé, avec l'écologie, aller au-delà de la religion judéo-chrétienne.
Ou en deçà.
Ou en deçà. Je pense qu'il y a matière à discussion, vraiment à discussion et à débat, au sens où ce n'est pas du tout évident. Il y a beaucoup de personnes pratiquantes catholiques qui se revendiquent écologiques, premièrement, et qui ne considèrent pas du tout qu'il y ait une incompatibilité entre leur religion et le fait d'avoir des positions politiques et morales écologiques à voir avec les textes. Mais voilà, les textes religieux sont aussi une matière d'interprétation, au sens où, pour eux, ils auraient une version de la Genèse qui serait de penser qu'il faut... respecter l'ensemble de la création.
Émilie H., excusez-moi, si Dieu a créé l'homme à son image, c'est donc, et qui en plus il en a fait l'agent de la providence, de la providence historique, il lui a donc donné une prééminence manifeste. Et ça, c'est bien anthropocentrique, pour employer les termes de Stéphane Ferret.
Oui, alors ça c'est effectivement c'est une interprétation tout à fait des Écritures. Mais ça, c'était la première chose concernant le fait... Je pense vraiment qu'il y aurait matière à discussion beaucoup plus longue sur la compatibilité possible entre la religion judéo-chrétienne et l'écologie. Et par ailleurs, concernant ce retour au paganisme, comme vous venez de le dire... Bon, c'est très compliqué de dire les choses de manière un petit peu précise et pas insultante aussi vis-à-vis de personnes auxquelles on pourrait faire référence en parlant par exemple de paganisme. J'aurais tendance tout d'abord à penser que cette réflexion écologique dans laquelle on se trouve tous tout d'abord, aurait, et ce ne serait pas une moindre chose, pour effet positif de remettre à plat l'ensemble de nos différentes dispositions à l'égard des différents êtres et considérer par exemple que l'animisme, ce n'est pas quelque chose qui date du Moyen-Âge. Enfin, il y a des populations aujourd'hui qui sont animistes et je ne suis pas certaine qu'on a considéré qu'on serait supérieur par rapport à eux. Donc plutôt à discuter ensemble politiquement si on pourrait avoir des décisions communes. Et par ailleurs, sur cette question d'une sacralité de la nature qu'on peut trouver dans différents textes politiques. Je ne pense pas forcément à celui que vous venez de citer de Boutros Ghali. Je pense, par exemple, à des textes qui sont aujourd'hui aux nouvelles constitutions de l'Équateur ou de la Bolivie qui essayent d'inscrire dans leur constitution la terre-mère, pas la nature, la terre-mère, la Pachamama. Alors, on peut immédiatement se gausser, trouver ça ridicule et revenir à un paganisme. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et notamment quand on rentre dans les détails de ce que ça peut vouloir dire pour eux. Vous avez tous, je pense qu'on a, pu entendre parler, par exemple, du projet Yanouzi, qui était le fait de vouloir préserver des réserves naturelles en Équateur, là où il y avait du pétrole, en échange de compensation financière. Donc, ça prend des propositions très concrètes, très politiques, très rationnelles, en tout cas pour nous, qui ne sont pas du tout grotesques ou...
Alors, y a-t-il des moments où les conceptions s'opposent et peut-être que cela peut se donner plus à voir dans le monde anglo-saxon ou aux États-Unis où on voit vraiment des écologistes, donc non-nash, se défier de toute morale humaniste et donner vraiment autant de valeur à la nature qu'aux hommes, voire plus à la nature qu'à un homme. Enfin, Stéphane Ferré.
Ce qui est toujours difficile dans ces discussions, c'est justement de rester sur un chemin de crête très étroit entre un abîme d'un côté et un mur très solide de l'autre.
Non, mais au-delà de ce que vous pensez, est-ce que ça arrive ?
Bien sûr, bien sûr. Je voudrais revenir quand même sur quelques remarques qui ont été faites, qui me paraissent très pertinentes, sur l'humanisme, parce qu'il y a quelque chose derrière ça et derrière ce terme qui relève davantage du... Enfin, qui est plus qu'un simple poil à gratter. Je voudrais simplement apporter un éclairage par rapport à une idée concernant les droits des êtres de nature. Parce que finalement, quand on oppose l'humanisme au non-humanisme, ce que j'ai foncièrement à l'esprit, c'est de récuser, n'ayons pas peur des mots, l'idée que l'être humain serait le seul sujet de droit. Je pense que c'est cette pensée-là qu'il faut mettre par-dessus bord. Dans la conception que j'essaye de défendre, avoir des droits, c'est bénéficier d'une protection légitime. Et pour bénéficier d'une protection légitime, que faut-il ? C'est très simple, il faut avoir une certaine valeur. Et que signifie avoir une certaine valeur ? Ben, ça signifie tout simplement avoir des intérêts. Et je pense qu'il y a de nombreux êtres non humains qui ont des intérêts.
Un intérêt à être.
Un intérêt à être et à préserver dans leur être. Je fais un moment une différence entre la Joconde et un éléphant. Je voudrais vraiment donner cet exemple parce qu'il me paraît, j'espère en tout cas, pédagogique et éclairant. À mes yeux, comme j'espère aux vôtres, je le pense en tout cas, la Joconde a une valeur incommensurable. C'est un chef-d'œuvre évident et éminent de l'humanité. Mais cette valeur est une valeur pour nous, c'est une valeur instrumentale. Ce n'est pas, pour reprendre, monsieur, votre expression dans votre chapeau de l'émission, une valeur intrinsèque. Autrement dit, nous avons certainement des devoirs vis-à-vis de la Joconde. Nous devons la préserver, la conserver. Mais elle-même n'a aucun droit et je ne défendrai jamais une telle idée qui me paraît totalement saugrenue. En revanche, si je songe à un éléphant, et même si je déteste les éléphants, je suis obligé, par la force de ma raison, de lui reconnaître des droits parce que c'est un être sensible et je pense qu'il a foncièrement un intérêt à être. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi on réserve le périmètre des droits à l'être humain exclusivement. C'est cette idée-là qui me paraît foncièrement toxique.
Mais je voudrais revenir à ma question.
Oui.
Y a-t-il des excès ? Enfin, je pense qu'il y en a, et plus davantage dans le monde anglo-saxon, où se développent des pensées, où on voit aussi des gens qui peuvent...
Vous avez bien compris ma réticence à ne pas répondre à votre question.
Vous ne parlez pas forcément de ce que vous pensez,
mais
vous
sûr.
Parlez aussi de ce qui existe.
Parce que j'essaye de défendre une position...
Que vous connaissez bien.
Bien sûr, parce que j'essaye, si vous voulez, de ne pas sombrer dans ce qui existe. Et vous avez raison de le signaler, des pensées, je reprends ce terme, hautement toxique, qui relève de l'écologisme non-H. J'en suis parfaitement conscient, j'y ai consacré... J'y ai consacré un des neuf chapitres du livre. Il est évident que je ne m'inscris pas dans ce courant-là. Maintenant, je n'ai pas envie de faire de l'espèce de contre-publicité ou de publicité vis-à-vis d'une pensée qui, moi, me paraît totalement folklorique, si vous voulez. Donc, J'ai du mal à en parler.
Samuel Efourfari, alors la position humaniste à l'égard du droit des animaux, c'était de considérer, et après tout ça pouvait se tenir tout aussi bien, que si on ne martyrisait pas les animaux, c'était pas en raison des droits qu'ils avaient sur nous, mais de l'image de notre propre dignité, qui consiste effectivement à ne pas torturer le vivant, à ne pas lui infliger de souffrance. Qu'est-ce que vous répondez aux arguments avancés à l'instant par Stéphane Ferret ?
Mais je le rejoins sur la notion de droit. L'Ancien Testament est rempli de droits et de règles et de normes. Et il faut le relire et vous découvrirez combien tout cela est réglementé. L'usage de la nature est réglementé. Elle devait se reposer de temps en temps, tous les 7 ans. Les animaux sont réglementés. Il ne faut même pas les faire travailler le sabbat. Il faut les protéger. Par exemple, on ne peut pas manger un animal vivant. C'est parce que c'est atroce de manger un animal vivant. Donc tout ça, la Bible le prévoyait déjà. Je crois que si on faisait une lecture critique de la Bible avec les yeux d'aujourd'hui de notre monde, on découvrirait une richesse exceptionnelle, y compris sur les droits. Et je vous rejoins sur vos droits. Et je dois dire que vous êtes aussi très équilibré, j'en conviens, vous n'êtes pas un deep écologiste, bien entendu.
Je cherche le marxiste primitif, là, un peu primaire, mais est-ce qu'on a le droit de détourner les fleuves ? D'après la Bible et d'après l'écologie profonde ou l'écologie, l'éthique écologique, si la nature a des droits, alors pourquoi, au nom de quoi aurait-on le droit de détourner les fleuves ? Ils ont le droit d'être là où ils sont.
Stéphane Perret. Il n'a peut-être pas un intérêt à être.
Alors, je ne crois pas qu'un fleuve ait un intérêt à être, mais je voudrais répondre directement à votre question. On considère généralement que la pensée radicale, écologique radicale, consiste à une sorte de sanctuarisation. Je pense que c'est une pensée, là aussi, naïve. Je pense qu'il peut y avoir un droit protection, je l'appelle ainsi dans mon texte, mais que ce droit lui-même se ramifie en de nombreux concepts. Certes, il y a la sanctuarisation, mais il y a aussi la conservation. Autrement dit, bien entendu, nous avons le droit de préserver des ressources de la nature à condition de maintenir les équilibres fondamentaux. Troisième sens de ce droit fondamental de la nature, en cas de marée noire, Deepwater Horizon, c'est pas pour rien que j'ai appelé ce livre ainsi, c'est que tout simplement notre devoir est de réparer les dommages anthropiques, autrement dit causés par l'homme. Hein ? Donc il ne s'agit pas de sanctuariser la nature, ce serait totalement absurde.
Mais tout cela absurde. Est reconnu d'ores et déjà par le droit français ?
Alors,
Émilie H.
Oui. Je vous en prie.
Vous chiez de la tête, alors je vous donne la parole.
Oui, non, mais absolument, parce qu'effectivement, quand on se pose la question de savoir si la nature a des droits, c'est une question en fait assez abstraite qui entraînerait vers un faux débat, il me semble, au sens où ça nous entraînerait, soi-disant, vers l'idée de savoir si elle doit ou pas en avoir. Mais de fait, enfin, elle en a. Quand on regarde effectivement, comme vous le dites, le code civil ou le code pénal en France notamment, vous donniez des exemples précédemment, Stéphane Ferret, on ne peut pas faire n'importe quoi avec des animaux domestiques. Là, il y a une réglementation concernant les animaux d'élevage. Dans un parc naturel, on ne peut pas faire n'importe quoi, etc., etc. Donc les droits sont là. Maintenant, la question, c'est plutôt de savoir, est-ce que ces droits tels qu'ils sont aujourd'hui sont suffisants ? Est-ce qu'il faudrait les modifier ? Est-ce qu'on pourrait en imaginer d'autres, en inventer d'autres ?
Alors, il faut savoir que les réserves naturelles aujourd'hui protégées et classées par l'UNESCO représentent quand même 12% de la surface terrestre. C'est pas rien. Ça pose un autre problème, c'est celui que les Occidentaux tentent de limiter, voire d'interdire les activités que les populations locales pratiquent depuis longtemps. Mais bon, ça sera peut-être, Louise, l'occasion d'un nouveau débat.
Bien volontiers, Brice.
Je voulais remercier nos trois invités parce que c'est trois livres absolument passionnants et tout à fait recommandables, chacun dans son genre. Émilie H., Ce à quoi nous tenons pour une écologie pragmatique, ça vient de paraître à la découverte. Stéphane Ferret, ça vient de paraître au seuil, ça s'appelle Deepwater Horizon, éthique de la nature et philosophie de la crise écologique, et Samuel Efourfari, Dieu, l'homme et la nature, l'écologie, nouvel opium du peuple, ça vient là aussi de paraître chez Bourin Éditeur.
Voilà, on se retrouve demain aux alentours de 18h20. Nous parlerons de la Belgique. Et si on se passait de gouvernement comme les Belges, ça c'est un titre de Brice Couturier. Nous en parlerons avec trois invités en direct de Bruxelles. Charles Brickman, qui est journaliste et chroniqueur et qui publie le 2 mars un livre au titre très intéressant. Comment peut-on être belge ? Point d'interrogation, c'est chez Flammarion. Nous en parlerons également avec Baudouin Boukert, qui est député au Parlement flamand et spécialiste de l'analyse économique du droit. Et enfin, Philippe Van Paris, mais donc en direct de Bruxelles. Il est professeur de sociologie à l'Université catholique de Louvain.
Puis demain, sur les matins de France Culture, présenté par Marc Voinchet, vous retrouverez Mireille Delmas-Marty, titulaire de la chaire d'études juridiques comparatives au Collège de France, qui vient de sortir un bouquin, là encore, Vers une communauté des valeurs. C'est la suite de ses réflexions. C'était Du grain à moudre, une émission proposée par Louise Touret et Brice Couturier, équipe de production Nathalie Lempereur, Avril Ventura, Flaminia Padeu et Francesca Fossati.